vous mettre debout, c'est possible de prendre le micro.
Ici, donc là c'est on.
Voilà, attention.
Oui, c'est assez bas.
Je le trouve relativement bas. Je suis sur micro. Voilà. Là, encore un petit peu. Je dirais encore un petit peu. C'est bien, c'est bien. Est-ce que le volume va bien? C'est bien? OK.
Le micro fixe? Oui. Non. Alors, attendez.
C'est mieux quand c'est allumé. C'est assez un petit peu plus, Bertrand? Oui, c'est très bien là, je pense. Ouais, un petit peu, oui.
Et puis, si jamais les gens n'entendent pas, ben je tire le micro.
Voilà.
Voilà. Et
C'est bon. Ouais,
je vous ferai des signes.
voilà. Ouais.
Voilà. Et
Ouais.
donc,
Merci. Vous êtes où vous
Ben, je vais me mettre pas loin.
Et puis, je me mets de. Pour combien de temps? Par rapport à. Ouais, non, c'est. Je voulais dire. Bienvenue. Ouais, moi vous parlez un peu de la littérature? C'est la nièce qui va te faire. Voilà.
Ah ben bah oui, il faut me laisser parler du pape François, sinon je n'ai plus rien à dire, moi.
Alors,
Ça, j'en ai pas besoin. Ah, c'est bien.
et on n'est
Et
pas même en droit d'aller à une formation, même là, mais ça c'est séparé. Il y a un petit groupe de croyants qui a une
ouais, je
animation
dirais
qui
qu'elle a la tête.
est. Pardon, je ne peux pas.
Je regarde un peu mon
Oui.
petit truc. Oui.
Bien, je propose que tout le monde nous rejoigne. Voilà, merci.
Pour le moment, ouais, faut pas
Approche.
mais...
Voilà, bienvenue à vous tous, pour cette conférence ici au CTM. Pardon, et si vous prenez ça, je vous rends tout de suite. Je dis pas ce que vous dites, quoi. Non, pas Agnès. Très bien, bah, bienvenue encore à vous. Et je vais laisser. Voilà. Donc, notre soirée va se dérouler en deux temps. Un premier temps avec un exposé de notre conférencière d'environ cinquantaine de minutes, c'est ça? Et puis ensuite, ce sera le temps des questions libres. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Le tout se terminant vers 21h30. Voilà. N'oubliez pas non plus la librairie Payet qui nous fait la joie de venir avec pas mal d'ouvrages à regarder et puis à acheter si vous le souhaitez. Sur ce, je laisse la parole à Alexis Pidot, théologien en CTM, qui va présenter Agnès. Merci Alexis.
Merci Bertrand. Voilà, c'est un petit peu c'est notre conférence de rentrée qui marque voilà, la rentrée, elle bat déjà son plein, les cours ont commencé, etc. Mais tout de même, la conférence de rentrée donne une tonalité, elle donne voilà une couleur, quelque chose à cette année. Et donc j'ai la joie de vous présenter notre invitée, notre conférencière. Madame Agnès Manoret-Onil. Et donc Agnès est mariée, mère de famille. Et du côté formation, elle est agrégée de lettres classiques. D'abord, un beau parcours d'études de lettres, plutôt de l'Antiquité, en tout cas. Et vous avez fait un doctorat en littérature française. Donc Agnès, elle a étudié la littérature spirituelle de la Renaissance. Et vous allez sur le stand de la librairie Payet, vous avez sa thèse qui a été publiée en 2019, qui s'intitule Poète et pédagogue de la réforme catholique, donc aux éditions Les Classiques Garnier. Et un de vos intérêts, Agnès, c'est les rapports entre littérature contemporaine et spiritualité. Donc Agnès est depuis 2023, rédactrice en chef adjointe de la revue Christus, que vous trouvez à la bibliothèque du CTM. Hein? Et cette revue, elle a été fondée en 1954 par un jésuite, et par conséquent, cette revue est liée historiquement à la Compagnie de Jésus, et elle est dédiée à la spiritualité. Agnès était auparavant membre de la rédaction de la revue Études, que vous connaissez sans doute également. Elle a écrit de nombreuses contributions pour cette revue et également pour Christus. Donc Agnès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue ici à Grenoble. Nous avons hâte de vous entendre sur l'expérience existentielle de l'acte de lecture. Nous vous écoutons, la parole est à vous.
Merci Alexis. Alors je vais commencer par une citation du livre dont je vais beaucoup vous parler ce soir, Loué soit la lecture, qui est le nouveau nom qui a été donné à la lettre du pape François sur le rôle de la littérature dans la formation. Et cette lettre, qui devait être assez confidentielle, puisqu'elle était d'abord destinée aux prêtres, pour leur rappeler que la littérature doit avoir une place dans leur formation pour eux-mêmes. Et puis finalement, le pape François, comme il le dit, s'est laissé un petit peu déborder par son sujet et c'est devenu une lettre sur le rôle de la littérature et plus exactement de la lecture dans la formation de tout un chacun. La littérature a à voir, d'une manière ou d'une autre, avec ce que chacun désire de la vie, puisqu'elle entre en relation intime avec son existence, avec ses tensions essentielles, ses désirs et ses significations. Alors j'espère que ce sera peut-être la couleur de votre année. En vous parlant de cette lettre, ce petit livre, Loué soit la lecture, je voudrais vous proposer finalement un petit parcours dans la pensée du pape François pour montrer que ce propos sur la lecture en rejoint beaucoup d'autres, son propos sur le fait que nous sommes des êtres en relation, et d'autre part sur le fait que la vie spirituelle, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un chemin de connaissance purement intellectuelle, mais c'est bien une expérience à vivre et à partager. Et donc, peut-être que c'est un petit peu ce qu'on peut vivre ici, au Centre théologique de Meilan. Alors, je vais compléter un petit peu la présentation qui a été faite, de moi, parce que je me suis dit, les pauvres, ils vont pas savoir comment me présenter, parce que je connais un peu le truc. Donc, on va faire un petit test. Si jamais le CTM invite quelqu'un qui fait de la philosophie, on va dire qu'ils ont invité un philosophe. Bon, imaginons qu'ils invitent quelqu'un qui fait des mathématiques. On va dire un mathématicien. Quelqu'un qui fait de la théologie. Bon, facile, un théologien. Bon, alors maintenant, quelqu'un qui fait de la littérature. Ah! Alors là, on est coincé. On est coincé parce que je ne suis pas écrivain ou écrivaine. Je n'enseigne plus le français depuis un moment. Alors on pourrait dire femme de lettres. Bon, ça fait un petit peu vieillot. Et puis, ça fait quand même moins sérieux que philosophe. Donc on a un problème et ce problème vient précisément du fait que il est très difficile de savoir quelle est la place de la littérature dans toutes les activités de l'esprit. On ne sait pas très bien où la placer. D'abord parce que on hésite à se mettre du côté de l'écriture ou du côté de la lecture. Et moi, qu'est-ce que j'écris? Bah, j'ai écrit beaucoup de critiques littéraires. Bon, critique littéraire, je ne me définirais pas comme ça. Si je suis ici, pour moi, c'est surtout parce que j'ai une pratique de la lecture intensive et depuis longtemps. Mais finalement, ce que ça me donne comme nom, c'est un adjectif. On va dire, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit, Agnès, c'est une littéraire. Vous voyez tout de suite ce qu'il y a derrière ce mot. Littéraire, c'est un peu comme l'essence seconde de poétique et mystique. C'est pas sérieux, quoi. C'est-à-dire, Agnès ne lui demande pas de relancer la chaudière, tu sais, c'est une littéraire. Donc, il y a quelque chose avec la littérature qui fait qu'on sent qu'on est un petit peu, on fait un pas de côté. On n'est pas tout à fait dans des choses rigoureuses. Quand on le prend en bonne part, on sent bien que c'est un petit détour par rapport à la vie, un petit détour par rapport aux choses sérieuses, mais qui permet d'y revenir. Donc voilà, j'espère avoir justifié ma place derrière le micro pour vous parler de cette lettre du pape François. Évidemment, une lettre qui a surpris. Donc, cette lettre a été publiée pendant les Jeux Olympiques et beaucoup se sont dit, mais ça alors, un pape qui parle de littérature. Plus exactement, un pape qui nous dit que c'est bien de lire, c'est une drôle d'idée. Ça, c'était la première réaction. Et puis, la seconde qui est venue très vite après, c'est un enthousiasme délirant pour ce tout petit texte. Et notamment, une personne très bien placée, William Marx, professeur au Collège de France, professeur de littérature comparée, spécialiste de littérature comparée, qui a écrit une grande tribune dans Le Monde pour dire toute l'admiration qu'il avait pour ce texte et pour le pape François, en disant à quel point c'était une révolution, le terme qu'il a employé. Il a ensuite écrit un article dans la prestigieuse revue Études pour montrer tout ce que cette lettre changeait dans le rapport que l'Église a avec la culture, avec, on peut dire, le canon, c'est-à-dire un ensemble de textes bordés par des frontières qui sont celles de c'est bien de le lire, c'est mal de le lire, c'est conforme à la doctrine, etc. Et c'est lui donc qui préface donc dans cette édition qui est parue donc aux éditions des Équateurs, celle que vous avez là-bas, mais on en trouve d'autres, hein, on trouve d'autres éditions de ce petit texte, comme si on avait besoin, remarquez bien, du cachet de l'universitaire laïque, vraisemblablement pas croyant, pour cautionner, pour donner une caution à ce texte du pape François sur la littérature. Encore une fois, vous voyez, c'est comme si il fallait donner un gage de sérieux à la littérature. Alors que ce que dit le pape François est quelque chose de très sérieux, et je ne vous cache pas que d'ici une demi-heure, je vous entraînerai dans des zones assez sombres, qui sont la question du mal, parce que je peux le dire tout de suite. Une des raisons pour lesquelles la lecture d'œuvres littéraires permet d'entrer dans le sens de la vie, c'est parce que c'est une des seules façons, c'est une seule façon qui existe de se confronter sans violence, sans une violence explicite, à l'existence du mal, de la douleur, de la peine. Vous voyez à quel point, en fait, tout ça est assez sérieux. Alors, c'est évidemment pas la première fois qu'un pape parle de littérature, malgré ce que dit William Marx. On peut dire que l'Église s'est toujours intéressée de près à la culture pour diverses raisons, soit pour s'en méfier, soit pour craindre que ça n'entraîne les croyants dans de mauvais sentiers, vers l'enfer peut-être. Mais il y a aussi toujours eu un dialogue avec la culture et on peut dire un mandat donné à l'art pour accompagner les croyants dans la recherche de Dieu. Et je vous propose, vous avez l'impression que je ne vais pas y arriver, mais on va y arriver, on va le lire ce texte. Je vais vous lire deux petits extraits d'autres textes du magistère, un de Paul VI, un petit message en fait aux artistes qu'il leur a adressé à la fin du concile, et puis ensuite un texte de Jean-Paul II. Qui reprend et qui amplifie le message de Paul VI aux artistes. Vous allez bien l'écouter, vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez quand je vais lire des extraits, on se rend mieux compte. Et ensuite, peut-être que vous comprendrez quand on lira un paragraphe de Louer soit la lecture, qu'effectivement, il y a un changement. Alors, je commence par vous lire ce message de Paul VI aux artistes. Donc, je fais un petit commentaire avant, mais vous allez voir, c'est pas un texte compliqué. C'est pour dire à quel point l'Église est heureuse de pouvoir faire alliance avec les artistes dans la recherche de la vérité et de la beauté, qui est un signe de Dieu. Alors, on peut préciser que donc ce texte a été prononcé en 65, en 66. Paul VI mettait fin à l'index. Donc, il y a déjà un petit changement qui se fait. À vous tous maintenant, artistes, qui êtes épris de la beauté et qui travaillez pour elle, poètes et gens de lettres, peintres, sculpteurs, architectes, musiciens, hommes du théâtre et cinéastes, à vous tous, l'Église du Concile dit par notre voix, si vous êtes les amis de l'art véritable, vous êtes nos amis. L'Église a dès longtemps fait alliance avec vous. Vous avez édifié et décoré ses temples, célébré ses dogmes, enrichi sa liturgie. Vous l'avez aidé à traduire son divin message dans le langage des formes et des figures, à rendre saisissable le monde invisible. Et je lis la dernière phrase de ce message. Soyez toujours et partout dignes de votre idéal, et vous serez dignes de l'Église qui, par notre voix, vous adresse en ce jour son message d'amitié, de salut, de grâce et de bénédiction. Donc, je ne sais pas si vous sentez un petit peu, dans ce texte, il y a cette main tendue, on fait alliance, et en même temps un mouvement qui suggère une élévation, c'est-à-dire que l'art est là pour nous élever vers la beauté, vers la vérité, là où se trouve Dieu, là où il se révèle. On le sent d'une façon encore plus forte dans la lettre de Jean-Paul II aux artistes, qui date de 1999, dont le sous-titre est « À tous ceux qui, avec un dévouement passionné, cherchent de nouvelles épiphanies de la beauté pour en faire don au monde dans la création artistique. » Alors, ce qui intéresse Jean-Paul II dans cette lettre, c'est de parler de la création artistique. Et on est quand même, 30 ans plus tard. Une des questions qui se pose dans cette lettre, c'est de savoir si les formes, notamment, il y a beaucoup de choses, mais si les formes de l'art contemporain peuvent être aussi un vecteur pour les, voilà, pour les croyants de connaissance et d'amour de la vérité et de Dieu. Il ne faut pas oublier que Jean-Paul II lui-même a écrit des pièces de théâtre, et donc dans ce texte, il parle aux artistes, mais en se rappelant son expérience de créateur. Donc, on s'approche, on est encore sur cette question du rôle de la littérature dans la vie du croyant, alors la littérature ou l'art ou le théâtre, etc., mais du point de vue du créateur. Ce que je voudrais que vous écoutiez bien, c'est le style. Personne mieux que vous, artiste, géniaux constructeurs de la beauté, ne peut avoir l'intuition de quelque chose du pathos avec lequel Dieu, à l'aube de la création, a regardé l'œuvre de ses mains. Un nombre infini de fois, une vibration de ce sentiment s'est réfléchie dans les regards avec lesquels, comme les artistes de tous les temps, fascinés et pleins d'admiration devant le pouvoir mystérieux des sons et des paroles, des couleurs et des formes, vous avez contemplé l'œuvre de votre inspiration, y percevant comme l'écho du mystère de la création auquel Dieu, seul créateur de toutes choses, a voulu en quelque sorte vous associer. Alors là, je parierais qu'il y en a un certain nombre qui ont un peu fermé les yeux, qui se sont dit, oh là là, ça c'est vraiment de l'homélie. C'est long, quoi. Il n'y a pas beaucoup de points. Il y a des grands mots. On est encore dans ce registre de l'idéal. Et on se demande si ça parle vraiment de notre expérience à nous, de l'art, de la lecture ou de la contemplation de la beauté. Donc maintenant, on va changer de style. Et je vais vous lire le deuxième paragraphe de Louer soit la lecture. Alors j'ai besoin de savoir s'il y en a qui l'ont déjà lu. Oh zut, non. Alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça va être une découverte. Souvent, dans l'ennui des vacances, dans la chaleur et la solitude de certains quartiers déserts, trouver un bon livre à lire devient une oasis qui nous éloigne d'autres choix qui ne nous feraient pas du bien. Il y a aussi les moments de fatigue, de colère, de déception, d'échec. Et lorsque nous ne parvenons pas, même dans la prière,
à trouver la tranquillité de l'âme, un bon livre nous aide à traverser la tempête jusqu'à ce que nous retrouvions un peu de sérénité. Et peut-être cette lecture nous ouvre-t-elle de nouveaux espaces intérieurs qui nous aident à ne pas nous enfermer dans les idées obsessionnelles qui nous tiennent inexorablement. Avant que les médias, les réseaux sociaux, les téléphones portables et autres dispositifs deviennent omniprésents, cette expérience était fréquente et ceux qui l'ont connue savent de quoi je parle. Il ne s'agit pas d'une chose dépassée. Alors dans la présentation, on aurait pu dire aussi groupie du pape François. J'aime beaucoup le pape François. Et quand j'ai lu cette lettre, alors moi je ne suis pas William Marx, mais je me suis dit, ah oui, ça fait vraiment quelque chose. Je l'ai lu et j'ai eu l'impression de voir du premier au dernier paragraphe exactement mon expérience de la lecture. C'est-à-dire quelque chose qui me fait du bien. Quelque chose qui me fait du bien, pas parce que c'est sucré, doux, facile, mais quelque chose qui me fait profondément du bien. Alors que je dois dire que je ne reconnais pas beaucoup mon expérience de la lecture, même de grandes œuvres littéraires, dans le texte de Jean-Paul II. Alors, pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans ce paragraphe, c'est le deuxième paragraphe. Dans le premier, il explique que bon, il voulait écrire pour les prêtres, et puis finalement, il s'est mis à écrire pour tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est son style. Il commence avec un paragraphe qui est un petit truc comme ça. Et ça commence vraiment à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce paragraphe qui nous donne déjà presque tout le texte, en fait, presque tout ce texte de Loué soit la lecture. Alors, la première chose, c'est que le pape François, d'abord, il nous parle de la lecture, il nous parle de nous, et il nous parle de nous sans nous juger. C'est vraiment, j'allais dire, un peu le grand-père, le pasteur qui parle. Dans toute cette lettre, le pape François est un pasteur. Et je ne sais pas si vous représentez comme moi, mais moi, là, j'ai l'impression qu'il nous parle d'un ado qui est sur le point de faire une grosse bêtise parce qu'il s'ennuie. Ça pourrait être aussi ces quartiers déserts, cette solitude, cette chaleur. On va aussi du côté de peut-être de la grande pauvreté, de zones très urbaines, j'imagine des zones très urbaines, où il n'y a pas de travail et où on est aussi tenté de faire des choses qui ne nous font pas du bien. Mais il nous parle aussi à nous qui n'arrivons même plus à prier. Ça, c'est fort quand même de commencer à dire. Quand la prière, ça ne va plus, eh ben c'est la lecture qui va vous aider. Je trouve que c'est prendre un risque en tant que pape qui est très beau. Et il s'approche tout près de nous. C'est le moment où nous sommes. Alors moi, j'appelle ça le petit vélo. Je ne sais pas, vous appelez ça la roue de hamster. Les idées obsessionnelles qui nous tiennent inexorablement. Ça, c'est une expérience que tout le monde fait. Et il se rapproche de cette expérience et il nous en parle très bien. Et déjà, voilà, on voit ce pape François qui a toujours eu le souci de parler à tous et de rejoindre chacun dans son expérience. L'autre chose, c'est sa façon de faire une observation, un constat sur le monde contemporain, le monde tel qu'il est. Je ne vais pas vous faire mon grand couplet sur le téléphone portable. Il suffit de dire que la lecture a été profondément abîmée par l'usage des téléphones, des réseaux sociaux, etc. Mais il a une façon de le présenter qui est encore tout à fait la sienne. Il nous en parle d'une façon positive. Il dit, cette expérience de lire un bon livre, et de vivre un moment, une petite parenthèse, une oasis, il dit, ceux qui l'ont connu savent de quoi je parle, Il ne s'agit pas d'une chose dépassée. Et voilà tout à fait la façon dont Pape François est capable de parler d'espérance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mot espérance, il n'y a pas forcément de grands mots, mais il nous met dans une situation que nous connaissons, que nous pouvons comprendre et à partir de laquelle nous allons partir et embarquer avec lui pour essayer de comprendre ce qui se passe quand nous lisons. Donc, les grands enjeux de cette lettre, ce sont d'abord, donc c'est un enjeu de formation. François nous parle comme un formateur, comme un pédagogue. Et ça, voilà, je vous détaillerai ça après. Il y a un enjeu missionnaire, c'est-à-dire que il nous explique que le fait de lire, l'acte de lecture, renvoie les croyants, les chrétiens, ceux qui veulent vivre l'Évangile, les renvoie à leur mission, qui est une mission d'ouverture à l'autre, une mission d'amour pour le monde. Et si on aime le monde comme il est, on veut que les autres soient bien. En fait, on veut ensemble vivre le salut. C'est ça la mission. Et la lecture, c'est ce qu'on va voir, la lecture nous permet d'aller ensemble vers cette mission. Et puis il y a un enjeu spirituel qui est celui du discernement. Le pape François nous explique que la lecture, c'est un gymnase du discernement. Donc là, on voit bien, j'allais dire que c'est un pape jésuite qui écrit, on retrouve j'allais dire les grandes lignes des intuitions d'Ignace de Loyola en fondant la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire la première chose, aider les âmes. C'est ça qui animait Ignace de Loyola, aider les âmes. Comment aider les âmes? En les formant. Donc vous savez, enfin, voilà, je vous fais pas un cours d'histoire. Très vite, la petite Compagnie de Jésus a commencé à former des collèges. Enseigner, élever des jeunes, c'est une mission, c'est l'apostolat préférentiel des jésuites. Donc cette lettre, c'est une lettre sur le rôle de la littérature dans la formation. Pape François, il n'a pas oublié ça. Il constate, il le dit, il est un petit peu fâché d'ailleurs, il constate que dans certains séminaires, il y a une obsession des écrans et qui ferait mieux de lire de la littérature. Alors, William Marx, il interprète ça en disant, ça, c'est vraiment une grande révolution intellectuelle pour l'Église, parce que c'est une façon de dire que ce ne sont pas la philosophie et la théologie qui sont formatrices pour les prêtres, mais c'est la littérature. Alors, je trouve que c'est dit d'une façon un peu négative. Ce que Pape François ne fait pas. Ce qu'il essaye de dire, c'est que la philosophie et la théologie, qui sont des voies d'accès intellectuelles vers la connaissance de Dieu, du Christ, de la mission, et que c'est insuffisant. La lecture de la littérature nous met en contact étroit avec l'expérience humaine. Et la tâche des prêtres n'est pas de transmettre un savoir, de même que la tâche de chaque baptisé n'est pas de transmettre un savoir sur le Christ, mais de transmettre une expérience et une expérience de salut. Donc si jamais les prêtres, ou je crois que je peux dire nous tous, vu l'Assemblée, je peux, nous croyants, si nous ne nous rapprochons pas de l'expérience humaine que vivent les autres, nous serons dans l'incapacité d'apporter une forme de salut au monde. Donc, un pape qui parle comme un formateur. Alors, il nous raconte à quel moment il a compris que la littérature, que la lecture de la littérature était à ce point essentielle. J'ai appris cela jeune avec mes étudiants. Entre 1964 et 1965, à 28 ans, j'ai été professeur de littérature à Santa Fe dans une école de jésuites. J'enseignais les 2 dernières années du lycée et je devais veiller à ce que mes élèves étudient le CIDE. Mais les jeunes n'aimaient pas ça. Les jeunes, ils n'aiment jamais rien. Enfin, ils demandaient à lire Garcia Lorca. Bon, donc on était en 64-65. Je ne sais même pas s'ils veulent lire Garcia Lorca maintenant. Ça, c'est moi qui ajoute. Le pape reprend. J'ai donc décidé qu'ils étudieraient le CID à la maison et que pendant les cours, je traiterais d'auteurs que les jeunes préféraient. Bien sûr, ils voulaient lire des œuvres littéraires contemporaines. Mais au fur et à mesure qu'ils lisaient les choses qui les attiraient sur le moment, ils acquéraient un goût. Un goût, ça, c'est un mot très important. Plus général pour la littérature, pour la poésie, et passaient ensuite à d'autres auteurs. Maintenant, c'est la phrase qu'il faut retenir. En fin de compte, le cœur cherche davantage et chacun trouve sa voie dans la littérature. Le cœur cherche davantage et chacun trouve sa voie dans la littérature. Alors, cette notion de cœur, elle est importante. Vous savez que le dernier grand texte que François a écrit, c'est un texte sur la dévotion au cœur de Jésus, qui a surpris dans un autre sens, dans le sens où on lui a dit, oh là là, il est en train de ressortir une grosse piété populaire, là, c'est fini tout ça, pourquoi il peut, enfin voilà, le Sacré-Cœur, c'est terminé. Alors, donc, moi, la revue Christus, je suis assez près des facultés Loyola, c'est le nouveau nom du Centre Sèvres, que vous connaissez peut-être, où il y a un certain nombre de gens, dont des jésuites, qui s'estiment ultra progressistes. Et alors, être progressiste, c'est avoir balancé un peu toutes ces vieilleries voilà, derrière soi. Et alors, ça a fait des remous, cette lettre sur la dévotion au cœur de Jésus. Parce que c'est vrai qu'elle a été un peu encombrée d'images dépassées, quoi. Mais si on la lit bien, si on lit bien ce texte, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu, dit Lexithnos? Oui. En fait, j'allais dire, il n'y a pas besoin, il y a tout là-dedans. Le cœur qui rentre en jeu dans l'acte de lecture, c'est un cœur qui bat. Ça, c'est très important parce qu'en fait, ce dont nous parle François à propos de l'acte de lecture, c'est que c'est un mouvement. Le cœur, c'est le lieu du mouvement de la vie, c'est-à-dire que il va vers et il revient vers nous. Et c'est avec cette métaphore du cœur qu'on va pouvoir comprendre dans quelle mesure l'acte de lecture nous rapproche du cœur du monde, du cœur des autres hommes. Parce que c'est là où on se sait mortel, c'est là où on est vivant, c'est là où on souffre, c'est là où on peine. C'est-à-dire que c'est là où ça se passe, c'est là où la vie se passe. C'est pas ici, c'est dans le cœur. Alors ce terme de cœur, on va le retrouver tout au long de cette lettre, mais tout particulièrement au moment où François nous explique qu'on va pouvoir, en lisant, voir se révéler le cœur du monde, ce qu'il appelle le cœur du monde, c'est-à-dire toute la vie que vivent les gens. Quand il nous dit, par exemple, donc pour un croyant, ça c'est vous, pour un croyant qui veut sincèrement entrer en dialogue avec la culture de son temps. Tout le monde se reconnaît là. Bon, alors je vous donne la méthode. Comment pouvons-nous atteindre le cœur des cultures anciennes et nouvelles si nous ignorons, rejetons ou réduisons au silence les symboles, messages, créations et récits avec lesquels ils ont saisi et voulu dévoiler et évoquer leurs entreprises et idéaux les plus beaux, ainsi que leur violence, leurs peurs et leurs passions les plus profondes. Donc ça, c'est atteindre le cœur. Comment pouvons-nous parler au cœur des hommes si nous ignorons, reléguons et ne valorisons pas ces mots avec lesquels ils ont voulu manifester et pourquoi pas révéler le drame de leur vie et de leurs sentiments à travers des romans et des poèmes? Parler au cœur, atteindre le cœur, mais aussi se laisser toucher au cœur par la vie de tous les autres. Ça, c'est Fratelli Tutti, c'est Laudato Si, ce sont tous ces autres textes peut-être plus sociaux ou plus politiques du pape François, où il nous invite à ne pas rester sourds, à ne pas avoir de surdité intellectuelle, mais pas non plus de surdité du cœur. Et ça, c'est une des premières leçons de ce petit texte que vous pouvez appliquer et surtout que vous reconnaissez certainement, c'est que bien plus que d'écouter les informations ou de lire des essais, des livres d'histoire, quand vous lisez un roman qui vous parle de tel ou tel pays, situation de vie, vous entrez profondément dans la vie de ces personnes. Et vous avez le cœur qui bat avec, qui bat en même temps. Et ça vous transforme, ça contribue à élargir votre cœur aux dimensions du monde. Et ça, voilà, c'est ce que j'appelle la mission, enfin, ce que le pape François appelle la mission. Alors, je vous fais une petite. Je me suis dit, je vais vous faire une petite liste des livres qui m'ont marqué, moi. Et qui m'ont appris des choses que je n'aurais jamais apprises autrement sur la vie des hommes et des femmes, tout ce dont parle François, leur douleur, leur joie, leurs idéaux. Alors, j'ai fait ça un peu en regardant ma bibliothèque, en essayant de me rappeler. Alors, j'avais lu ce livre qui s'appelait Snapshot, qui était un recueil de nouvelles dans diverses langues africaines, où j'ai découvert en particulier à quel point l'extraction pétrolière détruisait la vie des gens. Je me rappelle d'un livre traduit du japonais qui s'appelle L'usine de Hiroko Oyamada, qui m'a permis de découvrir à quel point le travail pouvait être aliénant. C'est un livre très étrange, un petit peu fantastique, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. Et quand j'étais à la rédaction d'études, j'ai vu passer un nombre d'essais sur la déshumanisation au travail, ce genre de choses, des articles. Ça ne m'a jamais fait le même effet que ce roman, L'usine. Je pense à un livre que j'ai lu sur les abattoirs, qui s'appelle L'instruction d'Isabelle Sorrente. Peut-être que vous. C'est un drôle de roman. Si je vous le raconte, vous allez penser que c'est un peu drôle et cocasse. Elle essaie de se mettre à la place d'une petite cochette qui va partir à l'abattoir. Elle fait un exercice intérieur de se mettre à la place de cet animal. C'est pareil, j'avais lu tout un tas de choses sur la maltraitance animale. Rien qui m'a fait autant d'effet, qui m'a fait aussi prendre des décisions après, que ce livre-là. Le roman de Roberto Bolaño, un auteur chilien qui écrit un très gros roman qui s'appelle 2666, qui m'a fait découvrir des meurtres en série dans la ville de Ciudad Juárez, des centaines de femmes assassinées, personne ne fait rien, la police ne fait rien. Et pendant 150 pages, je crois, de ce très gros roman, Roberto Bolaño consacre 20 lignes à chacune de ces femmes. Il raconte leur histoire. Il a fait son enquête personnelle pendant des années. Et c'est très éprouvant comme lecture, mais c'est quelque chose que je n'oublierai pas. J'ai même décidé que je ne regarderai pas le film. Il y a eu un film qui a été fait avec Jennifer Lopez. Alors ça, je pense que ça peut faire de l'effet, bien sûr, pour être sensibilisé à la question. Mais là, je fais une petite parenthèse parce que peut-être vous allez me poser la question après, mais je réponds maintenant. Pourquoi plutôt la lecture que de regarder un film? En fait, c'est quoi la différence? Alors là, je sors ma petite Bible, parce que le pape François répond à ça. Contrairement aux médias audiovisuels, il est incroyable ce pape. Est-ce que eux, ils parlent de médias audiovisuels? Non. Contrairement aux médias audiovisuels où le produit est plus complet et où la marge et le temps pour enrichir le récit et l'interpréter sont généralement réduits, le lecteur est beaucoup plus actif dans la lecture d'un livre. Il réécrit en quelque sorte l'œuvre, l'amplifie avec son imagination, crée un monde, utilise ses capacités, sa mémoire, ses rêves, sa propre histoire pleine de drames et de symboles. Et ce qui en ressort est une œuvre bien différente de celle que l'auteur voulait écrire. Une œuvre littéraire est donc un texte vivant et toujours fécond, capable de parler à nouveau de multiples façons et de produire une synthèse originale avec chaque lecteur qu'elle rencontre. Dans la lecture, le lecteur s'enrichit de ce qu'il reçoit de l'auteur, mais cela lui permet en même temps de faire fleurir la richesse de sa propre personne, de faire fleurir la richesse de sa propre personne, de sorte que chaque nouvelle œuvre qu'il lit renouvelle et élargit son univers personnel. Alors ça, vous allez me dire, bon, c'est une banalité, on le savait déjà, mais il faut le redire. Il faut le redire parce qu'il faut défendre la lecture, absolument. Quand on lit, c'est nous qui lisons. Nous créons un univers. Et créer un univers, créer un petit monde, c'est ce que Pape François appelle au début, là, quand le paragraphe que je vous lisais, créer de nouveaux espaces intérieurs. Alors là, j'en arrive à cette question d'une expérience existentielle et on va un peu rentrer dans la cuisine de la lecture. Qu'est-ce qui se passe dans l'acte de lecture? Non, qu'est-ce qui se passe dans l'acte de lecture? Alors, une chose qui peut être banale, parce que là, on a parlé du fait de se dilater aux dimensions du monde, en fait, de découvrir les expériences des autres parce qu'on lisait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ben alors, par définition, c'est l'intérieur. Et alors, s'il y a une chose qui est très claire pour le pape François, qui est un disciple du Christ, mais aussi d'Ignace de Loyola, c'est que l'intérieur, c'est le lieu du discernement, autrement dit, c'est le bazar. L'intériorité n'est pas un lieu magnifique que nous devons préserver tel qu'il est. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps. On va dire pour voilà ressourcer son intériorité. L'intériorité, voyez les images qui peuvent venir, c'est des images avec des jeunes femmes avec une fleur de frangipanier là qui attendent leur massage. Mais c'est pas ça l'intériorité. L'intériorité, c'est les ténèbres, c'est la confusion, c'est là où on doit prendre des décisions, c'est là où se concentre tout un tas de choses qui viennent de notre histoire, qui viennent de ce qu'on perçoit de l'extérieur. Il y a donc besoin de discerner. L'intériorité, c'est aussi le lieu du combat spirituel, dans les termes de la foi chrétienne. On va l'appeler autrement peut-être, si on n'est pas croyant. Mais en tout cas, cette intériorité, elle a besoin d'être travaillée, d'être ouverte. Il faut que la lumière rentre. Alors, quand on est jésuite comme le pape François, on sait qu'il y a des méthodes pour ça, qu'on peut faire des exercices. Et la lecture est un exercice, le discernement est un exercice. Et donc, alors là, il y a une distinction quand même qui est importante à faire. Et tout à l'heure, quand je vous ai lu le deuxième paragraphe, François dit. Même quand ça marche plus dans la prière, il reste quelque chose, c'est la lecture. Ça ne veut pas dire que la lecture d'une œuvre littéraire remplace la prière. La prière avec la Bible, c'est quand même toujours, c'est la Bible. La parole s'y donne. Je ne pense pas que ce soit impossible de prier avec un texte littéraire. J'aimerais bien faire l'expérience, mais il faut quand même pas mal de médiation et j'allais dire, il ne faut pas mélanger les choses. Mais François parle du fait que la lecture, c'est un gymnase du discernement. C'est-à-dire que ce n'est pas le lieu du combat spirituel lui-même, mais c'est pour s'y préparer. Donc, cette préparation, voilà, je vous parlais de différents types d'exercices spirituels, d'exercices de discernement qui se font à travers la lecture et que vous pouvez pratiquer vous-même. Alors, ça suppose plusieurs choses. D'abord, il faut choisir des bons livres. Voilà, tout ne se vaut pas. Pourquoi est-ce que tout ne se vaut pas? Parce qu'il y a des livres qui sont fabriqués et qui sont faits pour fabriquer une émotion chez vous. Et il y a des livres qui sont sentis. Et ceux-là, même s'ils sont très très éloignés de vous, ils vont vous permettre de vivre quelque chose. Donc moi, par exemple, par définition, je me méfie des livres qui plaisent à tout le monde ou des livres qui ont reçu un prix. Ce n'est pas du tout par mépris de la culture populaire, c'est parce que j'ai peur que l'émotion ou les effets de lecture qui sont recherchés aient été, voilà, fabriqués, voulus pour être universels. Mais un des mystères de la création artistique, c'est que plus l'artiste à chercher à dire quelque chose d'absolument unique et personnel, plus il va être en mesure de dire quelque chose d'universel. Alors, je pense qu'on peut dire, tout à l'heure, on parlait des réflexions qu'il y avait pu avoir entre théologie et littérature. Là, je crois qu'on touche un point du mystère de l'esprit, du mystère de Dieu, qui est que au plus profond de l'être humain, dans ce qu'il a de plus unique, il rejoint les autres bien plus que quand il cherche à lui ressembler. Alors, bon, moi, je ne suis pas théologienne, alors je vais pas aller trop loin sur ce terrain, comment dire, théorique. En tout cas, c'est quelque chose dont je crois on peut faire l'expérience quand on lit un livre très original, qu'on le lit avec attention. Il y a quelque chose qui nous remue, qui nous bouge beaucoup plus ou beaucoup plus durablement que si on lit un livre qu'on a acheté comme ça. On a le droit aussi hein, de lire Guillaume Musso, je n'empêche pas. Mais c'est un peu comme de manger du McDo. Ça fait du bien sur le moment. Mais ça ne reste pas. Or, le but, c'est d'essayer de viser à un exercice qui nous transforme, parce qu'il va être répété et parce qu'il va vraiment avoir des effets. Alors, ça peut paraître surprenant. Le pape François, il dit au début que la lecture, ça nous permet de sortir d'une logique d'efficacité, de rentabilité, de productivité. Et puis, un peu plus tard, il dit qu'il y a une efficacité de la lecture, mais c'est une efficacité spirituelle. Alors, il faut quand même que je vous donne un petit exercice. Donc, je vous donne un premier exemple. C'est un exemple personnel d'unification. Alors là, on va faire un petit peu de technique ignatienne. La première chose à se dire, c'est quand je lis, je ressens quelque chose et je dois accueillir ce que je ressens. Je ne le juge pas. On ne juge jamais une émotion de lecture parce qu'elle est là. Alors, avec les élèves niveau collège-lycée, ça marche bien. J'appelle ça la méthode de la pelote. Donc la méthode de la pelote, c'est on lit un texte, à la fin de ce texte, on a comme une pelote, une boule d'émotion, de quelque chose, des images, et on va essayer de nommer cette pelote avec trois adjectifs. Pas des verbes, parce que l'adjectif, il a cette capacité de rendre compte, de qualifier justement une émotion, un mouvement, on pourrait dire presque une motion en termes spirituels. Et il faut absolument garder cette pelote. Et en fait, il faut s'empêcher. Je sais pas, vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants qui vont passer le bac français. Vous pouvez essayer avec eux de faire ça. On n'a pas le droit de dire, par exemple, c'est un texte argumentatif. Évidemment, ça compte pas comme adjectif. Ça peut être une couleur. Ça peut être de dire, je sais pas, ce texte, il me fait acéré, rouge et violent. Vous savez pas pourquoi vous avez dit ça. Et vous allez revenir au texte et essayer de chercher ce qui vous a fait penser ça. Qu'est-ce qui vous a mis en colère, agacé, plu? On dit facilement touché, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est un peu pauvre en fait. Donc, on va chercher tout un vocabulaire pour essayer de préciser pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé du mouvement du cœur, mais c'est encore une fois ce mouvement de va-et-vient. Je reviens vers ce que j'ai ressenti, je retourne au texte et j'apprends ainsi à me connaître mieux. Et on va se rendre compte qu'il y a des choses qui nous mettent dans des états particuliers à la lecture et sur lesquels on peut travailler. Alors, je vous donne un exemple très récent. Il faut que je vous montre le livre, donc je vais quitter le micro 2 minutes. Voilà, donc j'ai récupéré ça dans une caisse, une brocante, je crois. Il s'agit donc d'un roman d'Edith Wharton qui s'appelle Ethan Frome. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Les montagnes du Massachusetts à la fin du 19e siècle. Ethan Frome est un jeune homme pauvre qui aime les livres et rêve de voyage. Il a hérité d'une ferme et d'une scierie qui ne rapportent rien, épousé une vieille cousine hypocondriaque. Et sans comprendre ce qui lui arrive, il tombe amoureux pour la première fois. En 3 jours, sa vie va basculer. Même la mort ne voudra pas des héros de cette tragédie rurale, chef-d'œuvre atypique d'Edith Wharton. Alors déjà, je n'étais pas sûre que j'allais le lire. Et je commence à le lire. Et je comprends que ça va être une histoire absolument épouvantable. Donc, il s'agit de ce jeune homme, Ethan Frome, qui est l'exemple d'un homme simple à qui il arrive des choses terribles qui sont disproportionnées par rapport à ce qu'il peut comprendre. Donc, un exemple d'injustice absolue. Et moi, je ne peux pas, je me rends compte que je ne peux pas continuer la lecture de ce roman. Ça me met dans une colère noire. J'en veux à Edith Wharton d'avoir écrit une histoire pareille. J'en veux au personnage lui-même de ne pas mesurer à quel point il est enfermé, emprisonné dans son temps. Parce que, donc, il a été obligé d'épouser la vieille cousine, là. Elle est insupportable, elle se plaint sans arrêt. On embauche une parente pauvre pour les aider. La petite jeune fille, là, délicieuse, évidemment, il tombe amoureux. Il pourrait vivre très heureux, mais c'est à peine s'ils se font un petit becco, rien du tout. Et un soir, il se dit, il faut que je parte avec elle parce qu'en fait, il pourrait vivre heureux. Mais il décide de ne pas partir. Il accompagne la vieille cousine, chasse l'autre petite jeune fille. Et vous allez lire ou pas? Non. Je vous raconte. Ils ont un épouvantable accident de luge dont ils sortent extrêmement amochés tous les deux. Et résultat, c'est l'épouse hypocondriaque qui va s'occuper de la toute belle jeune fille adorable qui est devenue un légume, et lui va s'emmurer dans le silence. Et l'histoire, en fait, commence 25 ans après. On apprend tout dès le début, donc je ne vous ai quand même pas tout gâché. Et on est donc confronté sans arrêt à la dureté de ce destin. Bon, j'ai fait la pelote, et je me suis dit, d'accord, là, tu as un problème avec le fait que la vie est profondément injuste avec certains qui n'ont même pas la capacité, en l'occurrence, il n'a rien, il n'est jamais sorti de son village, le garçon, de raisonner sur ce qui lui arrive. Et je me suis rendu compte que ce qui me mettait en colère, c'était mon impuissance devant ces personnages, mon impuissance à les aider. Comme dirait une de mes amies, mais toi, quelquefois, tu te prends pour Dieu. C'est-à-dire que j'ai une très forte envie de me dire, non, mais moi, je vais faire quelque chose. Et c'est un problème que j'ai dans la vie. C'est de ne pas reconnaître les limites de l'aide que l'on peut apporter aux autres. C'est quelque chose qui me rend folle. Et donc, j'ai décidé d'en faire un petit exercice aussi, parce que j'ai pensé à vous. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter? Et je suis allée jusqu'au bout du livre. Je ne peux pas dire que je me sente plus apaisée, mais j'ai l'impression d'avoir combattu en moi cette incapacité à accepter mes limites. Je vous donne un autre petit exemple qui a été plutôt une source d'émerveillement pour moi. Ça, c'est une lecture que j'ai faite il y a très longtemps, mais qui m'aide encore aujourd'hui. J'ai lu Le boulevard périphérique de Henri Beauchaud. Peut-être qu'il y en a qui l'ont lu. Alors, il faut que je retrouve mes petites citations, sinon c'est pas grave. Sinon c'est pas grave. Alors, comme je disais à Alexis et la petite équipe avant, donc moi je suis une banlieusarde et je trouve ça assez nul parce que en fait, vous avez tous les jours des paysages magnifiques. Vous vous levez. Vous avez des paysages magnifiques. Vous allez d'un paysage magnifique à un autre paysage magnifique. Vous êtes de quelque part, en fait. Vous êtes de quelque part. Et moi, j'ai l'impression que la banlieue parisienne, c'est un non-lieu. C'est rien, en fait. Et donc, je déteste le RER. Et donc, dans le boulevard périphérique, là, d'Henri Beauchaud, qui est un très beau livre dans lequel il raconte comment il accompagne sa belle-fille Paul dans son combat contre le cancer. Et parallèlement, il raconte la vie d'un de ses amis qu'il avait connu au début de la guerre et qui a été assassiné par un nazi, qui a repris contact avec lui. Pour vous dire quand même un peu la force de ce qui, voilà, de ce qui s'y passe. Et alors, tout d'un coup, donc on lit des choses. Il était psychanalyste, Henri Beauchaud, donc j'allais dire, il navigue très souvent en eau profonde. Et puis tout d'un coup, on a des paragraphes comme ça. J'arrive à Opéra. Je descends les escaliers mécaniques et les tunnels vers Aubert. J'arrive sur le quai en direction de Boissy-Saint-Léger. Le premier train est bondé. 6h20, c'est la plus mauvaise heure. Je le laisse passer. Le second train est à peine moins rempli. Je monte. Je dis des bouts de prière. Pour qui? Pour Paul, pour Stéphane, ou peut-être pour Shadow, parce que c'est lui qui meurt peut-être le plus obstinément en moi. Je descends au hall et je vais des murs bleu clair aux murs orange où arrivent les vieux wagons délavés du train de Sceaux. Le train gris entre en gare. Je regarde l'heure, il est déjà 18h05. J'arriverai avec 10 minutes de retard. J'ai mis 1h30 depuis l'hôpital. Ce sont les changements qui ont été plus longs que je ne le prévoyais. Pourvu que ce retard n'ait pas perturbé mes patients. Je ne me sens pas le courage de les calmer avant qu'ils ne se mettent au travail. Pas le courage. On dit cela comme si on avait le courage, comme si on le possédait, alors qu'il naît quand on n'a plus le choix, plus d'autre recours. Et bien moi, ce genre de passages qui reviennent régulièrement dans ce roman, ça a été une révélation pour moi. C'était une révélation de me dire le fait de prendre le RER, de faire des changements qui n'en finissent pas, les changements sont toujours plus longs que ce qu'on croit, le changement à Aubert, il est moche. Mais en fait, tout ça fait partie de ma vie. Et non seulement fait partie de ma vie, mais peut être relié à ce que j'estime être plus beau ou plus vrai ou plus intéressant dans ma vie. Quand je lis à quel point il est capable d'entrelacer son périple dans le RER avec ce qui est essentiel, c'est-à-dire dire des bouts de prière pour Paul, qui est sa belle-fille, Stéphane, c'est son ami, Et Shadow, c'est l'assassin de son ami. Et il passe de l'un à l'autre comme ça en un mot. Il arrive à faire cette unification qui est pour moi si problématique, que je vis comme voilà, comme une déchirure ou quelque chose qui ne va pas ensemble. De la même façon, il repart après. J'ai l'impression que c'est moi. Je regarde. Ah voilà, je vais être en retard. J'ai mis 1 heure et demie, etc., pour aller de là à là. Et puis il termine par cette réflexion sur le courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, on dit avoir le courage, alors qu'en fait, le courage nous vient, il naît. Et ben voilà, pour moi, autre forme d'exercice spirituel, c'est ça faisait une autre pelote, plutôt une pelote de réconfort ou d'émerveillement, de me dire il y a quelque chose que je pourrais peut-être faire et qui me ferait du bien plutôt que de râler quoi. Voilà, enfin disons les choses comme elles sont. Donc ça suppose de s'être mis dans une disposition où on sait que le livre, la lecture va nous transformer. De ce point de vue-là, c'est un petit peu comme la prière, c'est-à-dire qu'on peut décider par avance que la lecture qu'on va faire, c'est une lecture qui va nous transformer. On peut faire des lectures divertissantes, mais on peut choisir aussi de faire des lectures qui sont des lectures transformantes ou spirituelles. Alors, quelque chose qui est peut-être plus difficile à vivre explicitement, et qui est pourtant la pointe de ce que dit le pape François dans sa lettre, c'est que de considérer la lecture de cette façon, c'est croire que le Christ s'est incarné, c'est-à-dire changer de perspective. Vous voyez, au début, je vous parlais d'un mouvement d'élévation. Et François, dans sa lettre, nous dit exactement le contraire. Il nous dit, la lecture, qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? C'est pas grave, là-dessous. La lecture nous aide à descendre. Et c'est ainsi que nous pourrons faire connaître l'amour en disant que Jésus s'est fait histoire, il s'est fait chair. Quand nous lisons vraiment, en nous laissant toucher au cœur, en nous laissant dilater le cœur en lien avec la vie des autres, en nous exerçant pour le combat spirituel contre la peur de la mort ou la prise de conscience que nous sommes tous, à un moment ou un autre de notre vie, dans la douleur, nous reconnaissons que c'est là que se trouve le Christ. Et que c'est uniquement en passant par ce Christ-là, fait chair, fait histoire, que nous pourrons faire une expérience de salut, que nous pourrons ressusciter avec lui. C'est pour ça que c'est absolument indispensable de lire de la littérature, parce que il ne s'agit pas d'une approche théorique du réel, mais d'une approche humaine. Et le Christ a choisi de s'incarner dans une vie humaine. C'est ce qui permet au pape François de dire, je vais vous lire par exemple, je vais vous lire les deux derniers paragraphes. Après, on peut poser des questions. Le pouvoir spirituel de la littérature rappelle en définitive la tâche première confiée par Dieu à l'homme, celle de nommer les êtres et les choses. La mission de gardien de la création, assignée par Dieu à Adam, passe avant tout par la reconnaissance de sa propre réalité et du sens de l'existence des autres êtres. Le prêtre est lui aussi investi de cette tâche originelle de nommer, de donner du sens, de se faire instrument de communion entre la création et la parole faite chair, avec son pouvoir d'illuminer tous les aspects de la condition humaine. Alors je précise ici qu'il parle des prêtres, mais comme baptisés, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, donc ça nous concerne aussi. L'affinité entre le prêtre et le poète se manifeste dans cette union sacramentelle, mystérieuse et indissoluble, entre la parole divine et la parole humaine, donnant lieu à un ministère qui devient un service rempli d'écoute et de compassion, à un charisme qui devient responsabilité, à une vision du vrai et du bien qui éclot comme beauté. Nous ne pouvons qu'entendre les paroles que nous a laissées le poète Paul Celan. Celui qui apprend vraiment à voir s'approche de l'invisible. Merci.